tout juste sorti du four de REC 103.7, chaud devant l'émission culinaire plutôt épicée présentée par Gilles. Des recettes, des tours de main, des conseils de chef, mais aussi des témoignages et des chroniques, bien sûr de la musique. Chaud devant, c'est sur REC 103.7 le mercredi de 11h à 11h30 et c'est animé par Gilles.
Eh bien, bonjour sur cette antenne. On a beaucoup de plaisir, j'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver, j'espère que vous aussi. Et comme d'habitude, un témoignage, des recettes de cuisine. Quel avenir pour la cuisine ancienne ? Mon petit dossier que je vais terminer incessamment sous peu, sur que mangions-nous autrefois en Poitou ? Là, il est question tout de suite d'une histoire de pantalon, figurez-vous. Le pantalon pied de poule, depuis toujours, à ses adeptes. Il est le futal emblématique des métiers de bouche. Résistant, costaud, passe-partout. Mais un jour, le chef du service restauration a décidé d'un commun accord avec lui-même qu'il devait en être autrement. Alors, il a commandé un stock de pantalons blancs et sans poche. Avec ça, sur les fesses, on ressemblait à des peintres en bâtiment, mais pas à des cuistots. D'ailleurs, je ne devrais pas trop m'en plaindre, je les ai essayés, mais jamais vraiment portés. Privilège, me rétorquerez-vous ? Je vous dirais bien non. Et vous auriez tort, ce n'est pas le genre de la maison. J'étais à 18 mois de la retraite, le responsable de service me sachant près de la sortie, puisque je lui avais dit ma façon de penser concernant les pantalons, il évitait les conflits, se sentant bientôt tranquille, comme débarrassé. Et pourtant, j'ai essayé de persuader mes collègues qu'il fallait purement et simplement refuser les pantalons blancs de la discorde. Vous ne le savez pas peut-être, mais le fonctionnaire a été formaté pour être servile et obéissant. Heureusement qu'il existe quand même beaucoup d'exceptions pour confirmer ce dérèglement. Et pourquoi un futal sans poche ? Pour empêcher le personnel de garder dans ses fouilles son indispensable portable. Et donc les voilà bien emmerdés, les tripoteurs impénitents. Parce qu'il faut vous expliquer que le portable était donc interdit pendant les heures de travail. Donc les voilà bien emmerdés, les tripoteurs impénitents. Mais rassurez-vous, 80% du personnel s'en contrefout comme de sa première coque de protection anti-choc. Et maintenant, je pose une question. Croyez-vous que l'interdiction du portable en cuisine comme en préparation froide ait été pensée dans un souci d'hygiène ? Que nenni ! Quand les accros du clavier bidouillent ce dernier, il ne travaille pas. Et ça, voyez-vous, ça perturbe nos décideurs. Nos chefs, pas plus perturbés que cela, eux, ont à disposition un portable maison ou encore le leur perso. Et ils en usent et en abusent au nez et à la barbe du reste du personnel. Normal. J'ai pourtant connu des cuistots qui emmenaient leur iPhone en promenade faire un tour aux toilettes. C'est du propre, on se demande bien pourquoi. C'est maintenant qu'on est en droit de s'interroger. Comme les prises de courant font défaut dans les water closets, ils ne pourront jamais recharger leur batterie.
Trouble psychique, palpitations, tremblements psychotiques.
besoin de réconfort, c'était le groupe La Poison, un groupe ben de chez nous. Donc on va continuer avec Quel avenir pour la cuisine ancienne ? Et c'est un chapitre dans Que mangions-nous autrefois en Poitou ? Quel avenir pour la cuisine ancienne ? Au cours de notre travail, nous avons découvert que les habitudes alimentaires, je cite évidemment, s'étaient modifiées au lendemain de la guerre de 39-45, et plus particulièrement à partir de 1950, époque où se profile une nouvelle société qui s'installe dans l'abondance. Le monde rural s'ouvre sur l'extérieur. Autrefois, les paysans vivaient en autarcie. Désormais, ils ont davantage d'argent et leur échange avec la ville se multiplie. On est bien loin du temps où ce riche fermier du Mirebalais était allé acheter du blé, mais n'en avait pas trouvé. À son retour, il jeta ses pièces sur la table en disant « Mangez de l'argent, mes enfants, je n'ai plus de blé ». Après le bouleversement social et économique de l'après-guerre, que reste-t-il du patrimoine culinaire ? Nous avons demandé à des personnes âgées et à d'autres plus jeunes si elles relisaient encore aujourd'hui des recettes traditionnelles. Enfin, si elles relisaient et qu'elles réalisaient de nouveau encore aujourd'hui des recettes traditionnelles. Deux idées essentielles mais opposées dominent. Dans les réponses, les temps étaient durs, c'était le bon temps. Pourquoi y voir une contradiction ? Les recettes recueillies nous prouvent bien que la vie n'était pas facile et qu'il fallait faire attention, mais les cuisinières savaient transformer avec art les morceaux les plus simples. Combien de réponses étaient assorties de commentaires « c'était délicieux ». C'était un vrai régal. Fait-on encore de cette bonne cuisine traditionnelle ? Nous avons d'abord questionné les femmes de plus de 60 ans qui, toute leur vie, ont mitonné maintes fois les recettes qu'elles nous ont données. Un peu plus d'une personne sur deux nous a assuré qu'elle refaisait des plats d'autrefois, mais de façon intermittente, entre de nombreuses grillades. Pourquoi ce désintérêt pour une cuisine dont elle connaissait pourtant toutes les vertus ? On incrimine le progrès. Comment résister à la facilité d'ouvrir une boîte de conserve dont on nous garantit par surcroît la fraîcheur et la teneur en vitamines ? Peut-on retrouver avec nos cuisinières à gaz et à l'électricité le goût incomparable de la cuisson lentement mitonnée au feu de bois ? C'était pourtant toute une science de savoir conduire son feu. On invente aujourd'hui des mijoteuses programmables. Votre bœuf mode cuira tout doucement pendant que vous serez au travail et vous le retrouverez tout prêt à votre retour, à moins qu'il y ait une panne d'électricité. Sinon, ce jour-là, vous mangez des œufs. La cuisine ancienne exigeait beaucoup de temps. La préparation des plats était longue, la cuisson lente et minutieuse. Il fallait souvent soulever le couvercle et donner un tour, c'est-à-dire touiller, pour éviter que la sauce n'attache au fond du pot. Et les nombreux roux qu'on faisait pour calmer la faim provoquaient fréquemment ce genre d'incident. Et nos grands-mères avouent. Pour moi, toute seule, pourquoi voulez-vous que je me donne tant de peine en cuisine ? Je suis au régime. Mon docteur m'a interdit les graisses et les féculents. Je perds tous les jours la notion culinaire, je n'y pense plus. Fin cordon bleu d'autrefois, elles n'ont plus le cœur de cuisiner pour elles-mêmes. Cette cuisine traditionnelle est un patrimoine oral. Il n'y avait pas de livre de cuisine dans les fermes poitevines. Le savoir-faire culinaire s'est transmis de mère en fille. Parfois, une cuisinière faisait à une parente ou une amie estimée la faveur de dévoiler ses petits secrets. Ce qui nous vaut aujourd'hui les appellations biscuit Louise, riz tante Berthe, c'est qu'il n'y avait pas de recette passe-partout, pas de modèle standard. Chaque région avait ses plats, chaque maîtresse de maison son tour de main. Le savoir culinaire se transmet dans un style familier avec les mots de tous les jours. Les recettes rassemblées sont encore imprégnées de langage oral. Échauder les feuilles de choux, mettre de l'eau sur le feu, À demi-cuit, ajoutez les œufs. Une autre particularité est liée à ce mode de transmission. On découvre les ingrédients de la recette au fur et à mesure de la réalisation. Alors qu'aujourd'hui, ils sont toujours cités en chapeau pour faciliter le marché de la ménagère. De la même façon, les quantités indiquées nous paraissent imprécises. Une bonne poignée d'oseille par-ci, une pincée de sel par-là, un bon morceau de beurre, c'est toute la différence entre les quelques feuilles d'oseille cueillies au jardin et les 250 grammes achetées chez le marchand. Les personnes âgées avouent ne plus faire de cuisine ancienne, mais peut-on espérer en revanche que les jeunes vont assurer la succession ? Cette enquête ne nous rend guère optimistes. Chez les personnes de moins de 30 ans, 4 sur 10 reconnaissent ignorer tout de la tradition culinaire. Et chez les 6 autres qui prétendent s'y connaître, nous avons trouvé des réponses inquiétantes. La fondue bourguignonne et le Saint-Honoré sont cités comme cuisine locale. Au secours ! Les quelques recettes anciennes qui sont données ont perdu leur formulation traditionnelle. Elles ont dû transiter par une revue culinaire. Il apparaît finalement que les jeunes ont perdu le goût de la cuisine. Je n'aime pas ça, surtout si elle demande une longue préparation. Je travaille, mais je n'ai pas le temps. Et l'alimentation elle-même a tellement changé. Qui mange encore de la soupe ? La cuisine de nos grands-mères va-t-elle disparaître ? Même les restaurateurs soucieux de sa survie nous ont avoué qu'elle ne correspondait plus au goût des clients. Sauf curiosité passagère, ni aux conditions actuelles de travail. Pensons au coût de la main-d'œuvre. Le dernier conservatoire se résume peut-être à quelques milieux restreints attachés, soit par leur origine, soit par leur éducation, à la tradition populaire. Eh bien, restez sur le 103.7, puisque dans cette émission, on vous parle de cuisine ancienne et on vous donne les recettes anciennes, pardi.
Chaud devant l'émission culinaire sur ROC 103.7, le mercredi de 11h à 11h30, et c'est animé par Gilles.
Nous dit le chef d'État au dernier sommet sur ces sujets. Mes déclarations ont fait sensation.
Si on veut déposer un projet de loi, soyons prudents, c'est un sujet brûlant.
Faut pas non plus faire peur aux investisseurs. Le réchauffement doit pas empêcher la croissance.
Me montrez pas du doigt ce plan industriel. Je me plie déjà en réglementation. Beaucoup de pays sont moins tatillons.
Réduire les gaz à effet de serre, je vous jure d'y réfléchir. Mais mon résultat ne doit pas en pâtir.
Je dois satisfaire l'envie des actionnaires. L'installation d'une usine de retraitement pourrait m'obliger à délocaliser ce monde sans scrupules. La concurrence est dure.
Pas de planète sans casser de CO2.
Si c'est pas toi, si c'est pas moi,
on fait pas de planète sans casser de CO2.
Si personne n'est responsable,
pas de planète sans casser de CO2.
Qui s'occupe de ce paquet encombrant?
On fait pas de planète sans casser de CO2.
Ce qui nous fait croûter. N'oubliez pas que la télé vit de la publicité.
Les compagnies pétrolières, les grandes marques de beauté, ce qui nous dit du bonheur, n'apprécie pas qu'on les traite de pollueurs.
Vous êtes gonflé, dit la vache à lait. J'avoue, je fais des proutes. Oui, je fais des proutes.
Dois-je vous rappeler qui m'a domestiqué?
Élevé, enfermé dans des boxes en béton. On m'insémine, on me gave de farine.
Pas de planète sans casser de CO2.
Si c'est pas toi, si c'est pas moi,
on fait pas de planète sans casser de CO2.
Si personne n'est responsable,
pas de planète sans casser de CO2.
Qui s'occupe de ce paquet encombrant?
On fait pas de planète sans casser de CO2.
Thank you. scientifique.
Mon boulot c'est de chercher, pas de contrôler comment mes travaux seront utilisés.
Voyez l'état de la recherche, quand le pouvoir s'en lave les mains, on mesure pas les conséquences et c'est la nature qui paie la facture.
Qui a fait
je suis pas décideur, appel citoyen. Vous nous invitez à consommer différemment, mais faudrait encore en avoir les moyens.
J'ai pas fait des économies, un crédit pour ma nouvelle voiture, et la laisser au garage pour m'entasser dans les transports en commun.
On nous fait préférer les produits emballés, hygiéniques, esthétiques, carrément épatants. Paradoxalement, nous devenons coupables, irresponsables par nos choix polluants.
Pas de planète sans casser de CO2.
Qu'est-ce qu'il dit le monsieur?
Pas de planète sans casser de CO2.
Les grands ils font n'importe quoi.
On fait pas de planète sans casser de CO2.
Vous êtes...
Pas de planète sans casser le CO2. Si c'est pas toi, si c'est pas moi, si personne n'est le responsable, puis c'est qui s'occupe de ce paquet encombrant?
Et voilà, j'allais couper la chorale, la petite chorale des les petits enfants à la gueule de bois. Non, c'est pas ça. La recette du jour, le filet mignon à ma façon. Bien sûr, vous êtes dans une émission culinaire, je vous le rappelle. Chères auditrices et auditeurs, j'ai appris de façon fortuite que vous cuisinez avec votre micro-ondes. Déjà, comment peut-on faire autre chose que décongeler ou de réchauffer avec un tel engin? Mais si, c'est machin qui l'a dit sur Sister en streaming dans l'émission « Compromis d'office ». Alors là, je dis « faites gaffe ». Renaud, à l'époque où il embrassait pas les flics, disait alors « Alors, je dis halte à tout ». Attention au récipient que vous mettez dans votre micro-ondes. Le plus conducteur est le verre parce qu'il est transparent. Il est aussi au niveau de l'hygiène le plus sûr. Bannissez à jamais les récipients plastiques, même si on vous dit sur l'emballage d'un produit à réchauffer que ce plastique est conçu pour être spécial micro-ondable. Oh le vilain mot. Le savez-vous, comment réagit ce matériau quand il est chauffé? En plus d'être polluant, êtes-vous bien sûr que quand par exemple vous enfournez un hachis parmentier acheté prêt à réchauffer dans son emballage plastique, qu'est-ce qui vous prouve que le récipient en chauffant ne dégage pas de produits potentiellement dangereux pour votre organisme? Aucune étude sérieuse à ce jour n'a prouvé le contraire. Alors, le fameux principe de précaution est de rigueur. Dans votre micro-ondes, utilisez du verre et de la porcelaine à feu, voire de la terre. Petit rappel, certaines matières plastiques peuvent contenir des atomes de chlore dans le PVC ou d'azote dans le nylon polyuréthane. La combustion du polychlorure de vinyle produit du chlorure d'hydrogène, gaz très toxique. Dissous dans les eaux de pluie, il est l'un des constituants des pluies acides qui détruisent la végétation. Voici venir le moment tant attendu dans cette émission, la recette du jour, le filet mignon à ma façon. Mettre un gros filet mignon de porc à mariner pour 4 personnes. La marinade se compose de 25 g de gingembre frais, un petit bouquet de persil haché, quelques pluches de coriandre fraîche hachée, une demi-cuillère à café de coriandre moulue, si vous n'avez pas de coriandre fraîche, on n'en trouve pas toujours. Hein. 3 cuillères à soupe de sauce soja, mettre le mignon de porc entier dans un récipient adéquat, avec un couvercle hermétique, rajouter dessus la marinade, puis mettre au réfrigérateur 24 heures. Au bout de ce laps de temps, retournez la viande et remettre 24 heures au frais. Donc ça vous fait une marinade qui va rester au réfrigérateur 48 heures. Le jour J, mettre le porc à s'égoutter. Il faut toujours bien égoutter la viande qui est passée en marinade. Sinon, quand vous la faites revenir, eh bien, ça boue. Toute l'eau ressort, toute l'eau résiduelle, toute votre marinade résiduelle ressort et ça fait une viande bouillie. Donc, bien laisser s'égoutter la viande, puis colorer la viande dans une sauteuse avec de l'huile d'olive, 5 minutes de chaque côté. Retirez cette dernière, baissez le feu, à la place faire suer 2 oignons, 2 gousses d'ail émincées pendant 5 minutes. Ensuite, ajoutez par-dessus 1 cuillère à soupe de miel, plus 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre. Laissez à peine caraméliser. Attention, ça peut se transformer rapidement en charbon. Puis déglacez avec la marinade, plus 10 centilitres d'eau. Déposez le petit mignon dans le jus, couvrir. Laissez mijoter 15 à 20 minutes, toujours à feu doux. Au bout de 10 minutes, retournez la bête. Surveillez attentivement la cuisson. Rajoutez un peu d'eau si besoin. Fin de cuisson. Enlevez la viande, tranchez en biais. On appelle ça la coupe bistrot. La remettre dans le récipient, enrichir le jus de cuisson de 2 cuillères à soupe de crème fraîche. N'hésitez pas à gratter le fond de la gamelle afin de décoller et de surtout bien décoller tous les sucs. Faire à peine frémir. Si la sauce ne vous paraît pas assez épaisse, déliez 1 cuillère à café de fécule dans 2 cuillères à soupe d'eau. Versez dans la sauteuse pour lier. Après l'ébullition, coupez le feu et servir chaud. Tout à l'heure, c'était Marcel et son orchestre. Et là, c'est le grand Bachung.
Yeah! Culinaire sur ROC 103.7 le mercredi de 11h à 11h30 et c'est animé par Gilles.
Et bien sûr, on a envie de dire « Alain, tu nous manques !» Mais heureusement qu'on a son œuvre et qu'on peut vous la passer et on peut la partager ensemble sur cette antenne, sur le 103.7 FM. Alors, je vais vous parler des champions en fibres et les champions en vitamine C. Les fibres ne sont pas digérées par l'organisme. En revanche, elles jouent un rôle majeur en fin de digestion. Elles retiennent l'eau, donnant un effet rassasiant et régulant l'activité intestinale, diminuent l'absorption de cholestérol, ralentissent l'absorption du glucose dans le sang. Les besoins journaliers recommandés en fibres sont de 25 à 30 grammes par jour. Un plat de petit pois de 200 grammes, par exemple, apporte 12 grammes de fibres. Une petite pomme crue apporte 2 grammes de fibres. Vous voyez, c'est simple. Les riches en fibres. Alors, chez les légumes, c'est surtout les fèves fraîches, les topinambours. Et dans les fruits, on a aussi le coing, le cassis, la framboise, la groseille. Et les sources de fibres dans les légumes, nous aussi, on vous avez donc dans un peu plus restreint, on va dire, il y a moins de fibres dans ce que je vais vous annoncer. Donc dans les haricots verts, les avocats, les brocolis, les carottes, le fenouil, le chou vert, le poireau, le maïs doux, le céleri rave et les petits pois. Et puis dans d'autres fruits aussi, vous avez encore d'autres fruits rouges, des myrtilles, de la grenade et de la châtaigne. Les champions maintenant en vitamine C. La vitamine C, comme vous le savez, joue de nombreux rôles pour notre organisme, participe notamment à la formation du collagène et des cartilages, à l'absorption du fer, à l'immunité, et il devrait l'utiliser dans Koh-Lanta, à la lutte contre les radicaux libres. Les besoins journaliers recommandés en vitamine C sont de 110 grammes par jour pour un adulte. Un plat de brocoli, par exemple, toujours de 200 grammes, avec un peu de persil frais ciselé, ou deux kiwis, et le tour est joué. Les super champions de la vitamine C, vous avez donc le persil, le poivron, l'oseille, la goyave et le cassis. Et dans ceux qui en contiennent un peu moins, tous les choux, brocolis, choux verts, choux-fleurs, cresson, fenouil, épinards, blettes, petits pois, asperges. Kiwi, papaye, fraise, orange, citron, mangue, clémentine, pomelot, mûre. Tant qu'à faire, c'est un peu meilleur. On va donc se quitter avec cette petite musique, The Dark Side. Et le groupe s'appelle US3.
Real far, life is grimmer than it ever was.
De toute façon, on se retrouve la semaine prochaine, mercredi prochain, pour une émission en direct de 11h à 11h30. Et le samedi, comme vous le savez, c'est 12h, 12h30, la rediffusion du mercredi. Eh bien, salut!
Four de REC 103.7, chaud devant l'émission culinaire plutôt épicée présentée par Gilles. Des recettes, des tours de main, des conseils de chef, mais aussi des témoignages et des chroniques, bien sûr de la musique. Chaud devant, c'est sur REC 103.7 le mercredi de 11h à 11h30 et c'est animé par Gilles.